je vais vous parler donc de ce qu'on m'avait demandé de traiter, c'est-à-dire en fait les observatoires autoroutiers, comment ça marche, qu'est-ce qu'on en retient. Donc je change d'échelle par rapport à tout ce que Michel a pu vous présenter, je vais faire dans le local, parce que par définition on va essayer de suivre en fait des réseaux, des sections autoroutières. Sur cette carte, vous avez évidemment le réseau, donc APRR, en fait c'est APRR Street plus AREA, les autoroutes de Rhône-Alpes, qui sont en bleu, en vert, je ne sais plus en fait quand ça apparaît, et vous avez les données du réseau, le chiffre d'affaires et les effectifs. Les points rouges, c'est tout de suite pour montrer quelque chose, qui avait d'ailleurs donné lieu à des échanges avec Jean-Louis Guigou, qui était en responsabilité à la DATAR. C'est qu'en fait, le réseau autoroutier peut se lire comme un réseau de communication rapide qui, en fait, maille très finement le territoire. Et ça, c'est une première et grande différence avec les réseaux LGV qui, elles, postulent, comme lui, donc le réseau postule des mailles beaucoup plus larges. Nous, on peut desservir avec des diffuseurs, donc des entrées-sorties autoroutières, à peu près tous les 30 km. Eh bien, des communes rurales, des petites villes, des villes moyennes et aussi évidemment des métropoles. Alors, pourquoi des observatoires autoroutiers? En fait, on s'affranchit des obligations légales que nous respectons par ailleurs, postulées par la loi LOTI, Michel en a parlé, de 1982. Tout maître d'ouvrage, donc les RFF également pour le ferroviaire et tous les responsables autoroutiers, on doit faire ce qu'on appelle des bilans LOTI. C'est-à-dire qu'en fait, après la loi, on doit regarder les objectifs qui étaient ceux dans la déclaration d'utilité publique et on doit regarder 5 ans après la mise en service de l'ouvrage si on a atteint ou pas les objectifs postulés réglementairement et expliquer les écarts. Nous, donc, ça on le fait, mais c'est fait quand même d'une manière assez, je veux dire, bureaucratique et sans que, je dirais, les uns ou les autres, les maîtres d'ouvrage sont responsables, mais l'État aussi qui en assure le contrôle et notamment le Conseil général des ponts et chaussées, je dis ça parce que dans tout l'exercice, ça s'appelait comme ça, il n'avait pas encore changé d'appellation, a changé lui-même aussi sa doctrine, savoir ce qu'on devait regarder. Et au sein de APRR, là, il y a une conjonction, je dirais, de la patte humaine, de la sociologie, pour faire ces observatoires et se poser ce type de questions. Il y avait un président qui était un ingénieur général des ponts et chaussées, mais qui avait, dans ses études, fait l'Institut d'urbanisme à Paris, donc il savait un peu ce que c'était que le territoire, et il avait été responsable des voies navigables dans le Rhône, et il avait été avant responsable de l'IGN, donc il connaissait aussi la planète et le monde. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas, je dirais, dans ses regards, dans ses attitudes, que la gestion d'une autoroute ou que la constitution physique, technique de chaussées, de remblais et des chantiers. Donc une ouverture d'esprit, et ça je le dis parce qu'on ne le retrouve pas partout, et ça c'est vraiment un problème de formation des uns ou des autres. Donc connaître les diverses incidences locales pour... essayer de répondre aux questions, y a-t-il un apport local de richesse économique, oui ou non, quand on fait une autoroute? Et puis, autre versant, y a-t-il des altérations irréversibles des écosystèmes? Voilà les questions majeures qu'on a cherché à traiter. On l'a fait en essayant de travailler en partenariat, c'est-à-dire on estimait que les acteurs locaux, donc essentiellement en l'occurrence des départements, devaient quand même contribuer à payer un peu le genre d'études qu'on fait, et ça, je vais vous le dire après, c'est pas très cher, mais nous aider aussi à se poser aussi les questions qui les intéressent eux-mêmes. Ensuite, on met en perspective les décisions publiques locales qui accompagnent toujours la réalisation de routières, ne serait-ce que des raccordements de morceaux de routes départementales ou d'autres politiques de réserve foncière, par exemple, et on essaye de les rassembler. On incite les opérateurs économiques, donc privés également, mais publics, à tirer profit d'autoroutes nouvelles, en amont, avant la mise en service, parce qu'on pense qu'il y a des processus de préparation qu'il ne faut pas éviter. Et puis, on prête attention à sous forme d'évaluation aux nuisances, aux enjeux environnementaux, et notamment, maintenant ça s'appelle la biodiversité, l'eau, les paysages. Tout ça, ça a été fortement impulsé à partir de la loi de protection de la nature de 1976, et à l'époque, on était des entreprises publiques, donc très respectueuses de la loi. C'est-à-dire que nous, par exemple, on n'a jamais eu de problème de conformité, alors que ma surprise, entre guillemets, a été grande. On a été privatisé, je me suis aperçu que dans un groupe de BTP, la première question au regard du développement durable en général, de l'environnement en particulier, c'était de savoir si les groupes étaient conduit publiquement, localement. Donc là, je vous ai apporté quelques exemplaires de dossiers, mais si vous en voulez d'autres, je pourrais vous en apporter. Et le but de tout ça, c'est quand même ce qui est la dernière ligne de cette première diapo, c'est on voulait dépasser le discours qui a quand même été le discours propre aux Trente Glorieuses, et notamment porté par l'État et le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, qui très longtemps historiquement avaient été opposés aux autoroutes en France. Ça, c'est un autre sujet, caractère historique. Mais à partir du moment où on s'est lancé dans cet équipement, on a eu un discours très triomphaliste en parlant des effets structuraux des autoroutes, et souvent l'académie, c'est-à-dire les universitaires, les chercheurs, ont mis en cause ce genre d'approche, et en disant non, ça ne structure rien du tout, ça ne porte rien du tout. Là-dessus, c'est un peu une réponse aussi à une question qui a été posée. On est français, le colbertisme, ça a existé, je pense que ça a encore une efficace. Dans un autre contexte, j'avais regardé par exemple les textes que Colbert avait proposés pour accompagner la réalisation du canal des deux mers, donc le canal du Midi dans l'Ouest. Et en fait, c'est vrai qu'on associe en France une infrastructure de transport à des effets territoriaux de développement. Donc ça, c'est une première chose. Il y a beaucoup de chercheurs qui disent non, une infrastructure de transport, c'est pour transporter, point. Nous, c'est vrai qu'on a toujours ce regard, on attend quelque chose pour le développement territorial d'une infrastructure de transport, et ça a une longue histoire. Ceci étant, à contrario, et après j'en parlerai plus, il y a eu tout aussi des retours à l'occasion d'ailleurs de ces grandes séquences contemporaines que Michel a rappelées, des travaux d'historiens, je parle de, par exemple de quelqu'un qui est plus de ce monde, petit, qui avait regardé si au XIXe siècle, les villes qui avaient accepté l'arrivée du chemin de fer chez elles par rapport aux villes qui avaient refusé l'arrivée de chemin de fer, on pouvait historiquement trouver des trajectoires de développement différenciées. La réponse était non. Donc voilà, je le mets au dossier de cette association, une infrastructure de transport, du développement local. Alors, c'est des textes tout à fait sérieux, là, d'historiens. Alors, c'est vrai que ça heurte un peu notre sens commun à nous ici. Alors, encore une fois, d'un point de vue à la fois intellectuel, c'est le refus a priori d'avoir le mot d'effet. Pour ça que je parle d'incidence, je ne suis pas sûr que ça fasse progresser beaucoup, beaucoup l'entendement, mais enfin quand même, c'est pour dire qu'on n'a pas d'effet mécanique entre l'instauration, le développement d'une autoroute sur un territoire, avec des causalités linéaires, rendant compte d'un développement. Ça, c'est quand même une conclusion qu'on peut tirer de tous nos travaux en termes d'observatoire. En réalité, on peut parler d'interaction. Je ne suis pas sûr que pour le grand public, ça fasse progresser vraiment, là encore, la compréhension. Certains des collègues, comme M. Hoffner, sur le site, ils parlent de congruence. Je ne suis pas sûr non plus que ça aide à la compréhension. Enfin, ça veut bien dire quand même que le facteur autoroute, en tant qu'une infrastructure, ou à la limite, sans empiéter sur la présentation qui va vous être faite sur le ferroviaire, on n'a pas associé directement une infrastructure et du développement automatiquement. Ça peut se faire, mais ça peut aussi ne pas se faire. Donc, ce qu'on a regardé, c'est, en termes de connaissances, la relation entre une infrastructure autoroutière et les autres réseaux routiers, les nouvelles organisations et utilisation de l'espace, à proximité du réseau autoroutier, des activités induites, des évolutions des milieux naturels, et donc environnementaux, et le rôle des acteurs locaux, publics et privés. Je ne vous cache pas, en ce moment même, on est en convention d'études et de recherche avec certains universitaires, car pour ma part, je pense qu'après avoir travaillé avec des géographes, des économistes, il nous manque en fait l'apport de politistes. C'est-à-dire qu'il faut regarder localement les circuits de la décision entre différents acteurs, ceux qui vont se mobiliser en faveur d'un développement à l'occasion de l'arrivée ou de la dotation d'une infrastructure de transport, quelle qu'elle soit, et puis ceux qui, au contraire, ne vont pas en tenir compte. Moi, j'aimerais bien faire progresser la connaissance, modestement, sur ce terrain-là. Et je crois que c'est seulement après cette troisième type de regard qu'on pourra avoir peut-être des idées un peu plus claires sur ces fameux effets, entre guillemets, ou ces incidences en faveur du développement économique. D'un point de vue méthodologique, et puis j'irai peut-être un peu vite là-dessus, puisque enfin, vous pouvez le lire, et pour arriver plutôt aux résultats, ces observatoires, par définition, d'un point de vue scientifique, une limite énorme, colossale, c'est une approche par définition locale, c'est de l'empirie, c'est de la description, hein, de l'observation, et donc par définition, si on est dans le domaine scientifique, je ne peux pas tirer de loi générale s'appliquant partout à partir des observatoires. Je pourrais le faire si je suis démagogue, mais je me refuse à le faire, Et quand des maires, parce que ça nous arrive quand même assez souvent, viennent nous voir en disant « Vous ne pouvez pas nous aider pour des cas très concrets, en ce moment on est en train de construire une autoroute entre Lambon et Pau à 65 », il y a des élus qui disent, ah ben dans le fond, vous avez déjà des expériences dans d'autres coins de la France, dites-nous qu'est-ce qui peut se passer. Non, je peux dire des généralités, à partir de ce qu'on a fait, mais je ne peux pas dire, évidemment, il va se passer ça à toute sûre chez vous. La méthode est relativement simple, voire simplette, puisque ce sont des comparaisons. On compare un état dit zéro, c'est-à-dire en fait juste avant le début des travaux, pour avoir une base de comparaison sur différents éléments. On regarde ce qui se passe après pendant le chantier et lors de la mise en service de l'autoroute et puis 2 à 3 ans après cette mise en chantier. Ce qui veut dire qu'on a des systèmes d'information sur 10 ans. Quand au début on a proposé ça à des décideurs, soit autoroutiers, soit même de l'État, ça semblait énorme. D'avoir un dispositif d'étude sur 10 ans, c'était colossal. Là, je ne suis vraiment pas sûr du tout qu'en ce moment, ça se fait très très. Donc, je vais vous parler de choses qu'on a pu faire quand on était avant la privatisation. Les évaluations scientifiques, bon, bah, c'est des choses assez classiques, il y a du traitement statistique. Souvent, d'ailleurs, il faut sortir les données statistiques liées au territoire qu'on veut regarder. Il y a des enquêtes de terrain, il y a des sondages d'opinion, il y a des photographies satellitaires, par exemple. Les restitutions publiques, ça c'est tout, pour nous tout à fait important, parce que d'un point de vue strictement, je dirais, cynique d'opérateur, on peut partager avec des élus, souvent d'ailleurs ça m'est arrivé d'être dans des salles hostiles, il y a des maires qui sont écologiques profondément, et ça d'ailleurs peut être tout à fait écologique avec des étiquettes politiques différentes, hein, mais qui sont par définition hostiles à l'équipement. Là d'ailleurs j'extrapole un petit peu, mais là aussi en sciences politiques ça pourrait être assez intéressant, regardez. Mon expérience, il y a beaucoup d'élus, je dirais plutôt de droite, qui sont plutôt en faveur des autoroutes, et des élus plutôt de gauche, qui préfèrent plutôt le ferroviaire. Bon, ça c'est dans les discours, mais je veux dire, on peut faire un classement de ce type, je suis sûr que ça correspondrait quand même à des expressions de force politique. On a tenu des colloques, et je pense que Agnès en a fait partie de l'un, quand elle était doctorante, tant que je me souviens. Tout à fait, voilà. Et on n'est donc pas les seuls à Autoroute Paris-Rhône d'avoir fait cette démarche, mais je pense qu'on l'a fait d'une manière assez suivie. Donc voilà les 3 observatoires sur A71, ça c'est Bourges-Clermont-Ferrand, A39, ça c'est dans le Jura, c'est entre Dole et Bourg-en-Bresse, et A77, en fait, c'était dans la Nièvre. Donc toujours pareil, le choix méthodologique, là aussi, c'est un peu au doigt mouillé, on regarde, je dirais, un fuseau de territoire de l'ordre de 30 km de chaque côté de l'axe territorial. L'infrastructure, ce qui veut dire à peu près une demi-heure de distance-temps. Les travaux autoroutiers, vous voyez, pour à peu près 100 km, à chaque fois, c'est entre 3 et 4 ans de travaux, donc c'est quand même important, par rapport notamment à la question que vous disiez, l'observation, donc, englobe et dépasse cette période de travaux. Cette carte ne vient pas comme un cheveu sur la soupe, c'est parce que les 3 observatoires, ça, on l'a fait un peu exprès, comme intuition. On n'a pas voulu que ça soit des axes autoroutiers qui soient dans des zones, on va dire, polarisées ou métropolisées, pour ne pas avoir à subir, entre guillemets, des effets strictement métropolitains qu'on connaît par ailleurs. Et on a essayé de situer donc nos 3 petits morceaux d'autoroute dans des espaces plutôt moyens, donc pas trop industriels, encore avec une part agricole relativement importante, pas trop polarisée par des grandes villes, clairement c'est juste 400 000, enfin, vous voyez, donc on n'a pas travaillé sur des grandes agglos ou en périphérie d'agglos, pour essayer de voir, toutes choses étant évidemment inégales par ailleurs, ce qu'on pouvait associer en relation avec une autoroute. Alors en ce qui concerne l'autoroute A39, c'est celle qui a été la plus développée, mais en accord avec les élus. C'est-à-dire que dans A39, il faut bien voir qu'on avait des élus qui étaient à la fois intéressés par le développement économique et par la sauvegarde environnementale. On a proposé exactement la même chose, par exemple, aux élus de la Nièvre. En clair, ils nous ont dit, on a tellement de problèmes de crise sociale, agricole, industrielle et de renouvellement que vraiment l'environnement, ce n'est pas notre priorité. Donc, on a dit, bon, bah, ok, ça ne nous a pas empêché, nous, de faire sur la société toute une série d'équipements dont je vais vous parler, mais ça n'a pas fait l'objet d'un observatoire. Donc, on pense qu'il faut absolument quand même avoir un linéaire assez important, mais ça, c'est aussi une critique, par exemple, par rapport au bilan loti. Les bilans loti, c'est assez administratif. Donc, si on fait 20 km d'autoroute, il faut faire un bilan loti. Sur 20 km, quand on est en périurbanisation, mettons, de Dijon, qu'est-ce qu'on peut dire de vraiment très original? Ça, c'est un cas réel. Hein. Enfin, bref, il faut le faire, on le fait. mais je suis pas sûr que ça apporte grand chose à la réflexion. Dans le cas précis, vous avez les dates, comment ça s'est passé, et donc voilà ce que donne concrètement le faisceau d'analyse. En gros, là, on a essayé d'avoir des cantons entiers, et on intègre évidemment les villes moyennes, les petites villes concernées dans le faisceau. L'organisation, alors il y a différents modes d'organisation, mais pour 39, la maîtrise d'ouvrage en fait était assurée par un comité de pilotage qui rassemblait évidemment les financeurs, c'est-à-dire nous évidemment à PRR, mais aussi l'État. Le CETRA jouait un rôle tout à fait important et intéressant dans cette démarche, et puis le Jura, la Saône-et-Loire, l'un des trois départements concernés par le tracé. On a pris deux conseillers non rémunérés pour ne pas être susceptibles de jouer sur leur jugement. Jean-Claude Lefeuve, par exemple, que je cite, qui est au Muséum national d'histoire naturelle, et puis un économiste, non rémunéré pour qu'il puisse dire en toute liberté, puisque c'est un exercice libre, on n'est pas encadré par la loi ou par des règlements, vous vous intéressez, vous autoroutiers, vous élus, à tel et tel sujet, je peux vous dire qu'éventuellement il y a tel autre sujet qui mériterait d'être intéressant de traiter. Ou au contraire, vous voulez adopter une démarche d'analyse sur tel sujet, eh bien écoutez, je peux vous dire que vu tout ce qu'on a déjà accumulé scientifiquement, c'est pas la peine. Donc ça a bien marché. Et du coup, ce sont des hautes personnalités qui ont compris, qui se sont mêlées, je dirais, à nos débats, et c'était tout à fait intéressant. Le ministère en charge de l'environnement à l'époque n'avait pas d'argent, donc on l'a toujours invité. Organisation de l'Observatoire de la 39. Alors, on a choisi une université, celle de Besançon, parce qu'on se disait, des universitaires et des chercheurs qui connaissent déjà leur territoire, eh bien, il y a une économie en temps pour accumuler de la donnée, et il y a aussi une rationalisation, je dirais, du savoir à mobiliser, puisqu'ils sont censés, ces géographes ou économistes, à déjà préconnaître leur bassin d'emploi, leur milieu environnemental, avant l'arrivée autoroutière. En plus de ça, il se trouve qu'à Besançon, il y avait à la fois des équipes de géographes et des équipes, je vais dire, naturalistes, ou spécialisées dans l'environnement, en hydrologie, etc. Et donc, il y avait une proximité des hommes et des femmes qui pouvaient nous aider. Là, il y a quand même un échec. On n'a jamais pu, alors que ça s'est très bien passé sur le plan humain, on a même fait des séminaires uniquement avec les universitaires. En clair, j'en parle bien sous forme de slogan, mais une conclusion entre un bassin d'emploi et un bassin versant, tout est différent. L'échelle est différente, les temps historiques, géographiques, géologiques sont différents. Et bref, c'est quasiment impossible par les méthodes, par les conclusions, par les approches, de vraiment avoir un vrai travail intégré dans ces deux champs. On peut mettre des équipes côte à côte, ça peut se jouxter, c'est ce qu'on a fait, mais les faire interchanger, vraiment, là, ça a été, un échec, et tout le monde en est complètement conscient. 20 conventions d'études thématiques, je vais les présenter, et là, plus de la moitié, en fait, était dédiée à l'environnement. Alors pourquoi? Parce que dans le domaine particulier qui était le nôtre, dans ce contexte du Jura, d'abord, on intervenait dans la circonscription de Dominique Connais, je la cite, puisque Michel l'a cité, et il y avait aussi dans le Jura beaucoup d'élus à sensibilité verte, et le milieu en tant que tel était parsemé de rivières, d'étangs, et avec la Bresse et le Piémont du Jura, des environnements donc assez fragiles. Le coût financier d'un observatoire, ça j'y tiens, parce que souvent ça peut faire peur, mais donc pour les 10 ans et pour les 20 conventions d'études, ça nous a coûté, donc c'était des francs, que j'ai traduit après en euros, mais 1 million d'euros, un peu plus, uniquement la production de matière grise, sans les problèmes de séminaires ou de publications, et donc c'est 2 pour 1000 de l'investissement. Donc j'estime que si on veut le faire, ça demande de volonté, on peut le faire. Souvent, évidemment, là je suis dans une entreprise maintenant privée, le moindre euro à dépenser pose quand même problème, sauf dans le domaine de l'environnement, où là, ça peut être utile. Alors, les gains autoroutiers, ceux qu'on savait déjà et qu'on n'a pas trop réétudiés, alors la sécurité, ce que Michel Savy l'a évoqué, dans le cas précis de la 39, en fait, on a des taux beaucoup plus forts, par exemple, que le 1 à 4, hein, puisqu'on a 10 fois moins de risques d'être tué sur l'autoroute A39 que sur la RN83 qui la jouxte, et 5 fois moins de risque d'être gravement blessé. On a regardé évidemment les tués évités année par année. Les gains de temps qui sont évidemment toujours importants, et puis un problème aussi, le report des poids lourds. Quand on fait une autoroute, par définition, fonctionnellement, on dit que le transitent, notamment des poids lourds, doit se reporter sur l'autoroute. Là, on s'aperçoit, dans la conjoncture où on a étudié ça, en gros, les poids lourds riches de l'Europe occidentale se reportaient assez vite, les poids lourds plus pauvres, c'est-à-dire les chauffeurs plus pauvres, de l'Europe centrale orientale, nettement moins vite, et continuaient à être sur la nationale 83, ce qui était évidemment remarqué par les populations qui ont continué à être envahies de camions dans leur village. Donc voilà la liste des études, alors ça, des études socio-économiques. Vous avez, enfin, bon, je ne vais pas tout lire, enfin, on regarde l'évolution des zones d'activité, les réserves foncières, le tourisme, l'agriculture, l'occupation des sols avec le changement de documents d'urbanisme, le rayonnement des marchés, des villes, les politiques d'accompagnement, les finances publiques, je vais en dire un mot. Voilà. Dans le domaine environnemental, on avait donc regardé des milieux particulièrement sensibles, susceptibles d'être affectés par la réalisation autoroutière, que ce soit des rivières, des écosystèmes végétaux, des nuisances liées à notre propre exploitation là, sur le sel, les amphibiens, la macrofaune, les oiseaux. Alors on a eu un échec là qu'on va reprendre d'ailleurs, c'était l'idée, d'ailleurs reprendre l'actualité avec les trames vertes et bleues, Grenelle postule, on avait bien remarqué, si vous voulez, que sur le bord des autoroutes, sur les grillages que nous mettons, eh bien, vous avez énormément de rapaces qui chassent, en fait, dans la chaîne alimentaire, la masse de petites bêtes qu'il y a au sol. Et donc, l'idée, et qui reprend corps, c'est le long des autoroutes, en fait, on a des longs couloirs où on peut avoir effectivement des déplacements de différentes espèces, notamment les insectes, mais maintenant ça s'est actualisé avec le réchauffement climatique laissé les espèces du sud remonter vers le nord. C'est tout à fait, voilà. Ça, c'est ce qui est aussi dans l'air du temps. Une démarche, là, j'en dis un mot, parce que ça peut être intéressant, on avait aussi regardé donc, les transformations paysagères avec un système, 250 photographies prises chaque année au même endroit, pendant le chantier, et puis juste après. Alors là, comme je ne vais pas en revenir, je dis juste un mot. En fait, on s'est aperçu qu'avec les nouveaux tracés qui épousent fondamentalement les courbes de niveau, l'autoroute en tant que telle ne nuit pas au paysage, d'autant plus que les cicatrisations se font très très rapidement. Mais en revanche, ce qui est réellement ce qui nuit au paysage, c'est en fait tous les équipements de sécurité, de communication, les mâts de radio par exemple, qu'on y met. Donc à ce moment-là, on s'était dit, dans le fond, on va peut-être avoir des négociations avec les industriels, les panneaux à message variable, enfin tout ça, pour voir si on ne pouvait pas avoir d'autres designs ou carrément d'autres couleurs ou d'autres formes. Après, on était privatisé, donc cette opération s'est arrêtée. Alors par rapport à la question sur le chantier, qu'est-ce qu'on a pu regarder? Là, j'ai rassemblé donc à la fois ce qu'on a vu sur la 39 puis sur la 77. En fait, tout dépend de la richesse des entreprises de travaux publics de la région. Donc sur A39, on a à peu près 42% du tout des travaux qui ont été attribués à des entreprises régionales. Toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par entreprise régionale. En fait, une entreprise régionale, ça peut être aussi un représentant local d'un grand groupe. Bon, ça, on le sait. Mais dans A39, en fait, le taux a été assez élevé, atteint, parce que quand on est à Bourg-en-Bresse, eh bien, on n'est pas loin de la région lyonnaise. Et en fait, il y avait quand même la richesse du BTP, du secteur BTP lyonnais, qui a pu s'exprimer sur les chantiers de l'A39. Dans un autre cas de figure, sur l'A77, donc entre Montargis et Nevers, en fait, le taux est moitié moins, puisqu'on a 20% capté par des entreprises régionales, puisqu'en effet, là, on est un peu dans un, entre guillemets, désert d'entreprises. Et en plus de ça, une autre variable clé, tout dépend des lots qu'on propose. Alors, on peut effectivement proposer des lots petits pour que les entreprises régionales y accèdent, mais quand on a des ponts à faire ou des viaducs, il n'est pas question de jouer avec ça. Et un autre critère aussi qui a pesé beaucoup, c'est le respect des délais. En fait, quand on a des délais de réalisation, les petites et moyennes entreprises locales ont moins de garanties à offrir, ne serait-ce que par les problèmes de compétences, tout simplement, que les grandes. Alors, quand on a continué cette démarche avec les entreprises locales, donc régionales, on s'aperçoit que, a posteriori, elles ont augmenté leur référence d'ouvrages réalisés et que travailler pour une société autoroutière, en fait, ça leur permet de migrer sur d'autres chantiers. Donc, c'est un élément de dynamisation aussi, par rapport à la masse des travaux, on s'aperçoit dans tous les cas, c'est que les petites et moyennes entreprises, de toute façon, quand il y a gros travaux, elles ne vont pas embaucher énormément parce qu'elles savent qu'au bout de 3 ans, elles auront à débaucher. Donc en fait, la marge de manœuvre, c'est à peu près de 10% de la masse des salariés locales qui vont pouvoir, je dirais, capter à l'occasion des travaux, mais pas plus. On a fait par exemple des analyses très, très fines. Vous pouvez avoir un gros chantier et en même temps des taux de chômage qui ne varient pas, donc qui ne baissent pas sur un bassin d'emploi donné. Pourquoi ? Parce qu'en général, le fonctionnement, c'est ce que j'ai mis après, des grandes entreprises, c'est plutôt des gens compétents qu'on déplace chantier à chantier. C'est ça qui fait à peu près 70% du volume des travailleurs travailleuses et uniquement une trentaine de pourcents de recrutés locaux au maximum et qui sont, on verra d'ailleurs, sur des travaux les moins qualifiés. Donc ce qui est le plus important pour l'effet chantier, ce n'est pas tellement l'emploi, il y a l'effet organisationnel sur les entreprises, mais le plus important, c'est le coup de fouet en consommation pendant la durée du chantier, donc ça dure 3-4 ans, où on s'aperçoit que c'est loin d'être négligeable les dépenses faites par les personnels déplacés et par les personnels locaux. C'est loin d'être négligeable sur plusieurs secteurs. Alors là aussi, on s'est pris à plusieurs choses, parce qu'on a fait des enquêtes auprès directement des commerçants. En général, les commerçants, ils disent « Oh non, non, on n'a rien vu venir, non, non, notre chiffre d'affaires n'a pas augmenté, non, c'est comme avant. » Quand on a eu fait, alors donc on a dit « On abandonne cette démarche », on a fait donc des enquêtes directement auprès des chefs de chantier, des chantiers, et on demandait leur budget de consommation. Et c'est donc par les informations collectées auprès des gens qui étaient sur les chantiers qu'on a pu avoir des chiffres beaucoup plus intéressants. Après, une moyenne sur, donc, alors là, en termes d'exploitation, à 39, vous donne à peu près un peu plus de 2 emplois permanents par kilomètre. C'est à peu près un ratio, ça, qui pourrait être maintenu, compte tenu du fait qu'en ce moment, on substitue des péagers et péagères manuels à du télépéage. Donc, ça va faire moins de gens en cabine pour récolter les tickets de péage. En ce qui concerne la phase environnementale, alors pour le chantier d'abord, lors du terrassement, un des premiers problèmes qu'on a vu, c'est qu'en fait on met du chaud, de la chaux dans les terrassements pour faire la base de l'autoroute, et ça se répand, donc on a vu des phénomènes d'eutrophisation dans des étangs, donc ça veut dire quelque chose de très précis, de protéger encore plus des eaux de ruissellement, les zones de terrassement par rapport au réseau hydraulique qui les jouxte. Alors, en phase sentier, en ce qui concerne la biodiversité, là on avait fait évidemment attention. Premier problème pour les amphibiens, ils prennent les ornières de chantier pour des mares. Donc en général, quand ça s'assèche, les amphibiens, c'est une catastrophe, ils meurent. Donc en fait, on crée des mares de substitution, et ça, on a vérifié, ça marche très bien. Les passages inférieurs, donc en fait, c'est des tubes, hein, ça peut être aussi des ponts, en général, c'est des tubes sur l'autoroute. Permettent aussi de passer les tritons, les grenouilles, etc. Et là, on s'est aperçu avec des scientifiques, dans le BTP, on mettait des buses à section ronde. Donc, dès qu'il y a de l'eau, évidemment, ça devient un torrent et les petites bêtes se noient. Donc, un universitaire de Besançon nous a dit essayer des sections par les BTP, carrés. Donc, quand il y a de l'eau, même peu, ça méandre, ça laisse du gravillon et les tritons et autres ne se noient pas et restent sur ces petites îles artificielles. Donc voilà des choses de détail qu'il a fallu travailler. En ce qui concerne la plus grande faune, donc essentiellement le sanglier, le chevreuil, en général, pendant la phase chantier, les bêtes se décantonnent facilement et elles reviendront après le chantier sur leur lieu habituel. Et là, ce qui est plus nouveau, parce qu'on vient de terminer là, en ce moment même un rapport là-dessus, c'est en fait les passages supérieurs à faune, mais aussi inférieurs. En gros, on fait des ponts. Alors, ils peuvent être très spécifiques uniquement pour les bestioles. On peut faire des ponts mixtes avec des passages humains et bestioles. Et on a cherché à vérifier, un, si les bestioles passent, deux, lesquelles bestioles, quelle fréquence, et en fait, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'elles passent plutôt quand c'est aérien, plutôt quand c'est inférieur? Et est-ce qu'elles passent mieux quand il n'y a pas de tracteur ou pas de poêle? Alors, donc, on sort en ce moment un rapport qui intéresse beaucoup de gens. Et là, on a travaillé ça, en fait, avec les chasseurs. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que, j'ai le plus grand respect pour les tyrènes, mais qu'en fait, les gens qui connaissent le mieux et très finement chaque, je veux dire, quasiment mètre carré du territoire, c'est quand même des chasseurs. J'ai moi-même, avec les bottes, évidemment, arpenté des lieux que je n'aurais pas imaginé arpenter. Bon, pour voir si, on voit des traces au sol, et on voit beaucoup de traces, c'est vrai. Donc pour la biodiversité, ça c'est tout à fait intéressant. Le plus grave, où là vraiment c'est très sérieux, c'est pour les oiseaux, et notamment les oiseaux nicheurs. Les oiseaux nicheurs se mettent dans les écorces de vieux arbres. Quand on a des chantiers et qu'on coupe des arbres vieux, et même si on replante des arbres neufs, c'est pas du tout le même habitat pour les oiseaux. Donc là, en fait, les oiseaux nicheurs, en fait, eux, ils disparaissent. C'est-à-dire que quand on a des espèces fragiles, on accélère la disparition de cette espèce. Soit on a des populations déjà peu nombreuses dans une espèce, on va accélérer la diminution de population de cette espèce. Donc là, il y a un vrai problème qui, en plus de ça, est accéléré énormément par, en fait, le remembrement qui, lui, coupe, évidemment, énormément de haies. Alors, en ce qui concerne le remembrement, là, je vous ai juste fait cette petite diapo, mais vous pouvez la consulter plus rapidement. En fait, quand on parle de remembrement, je pense que c'est très intéressant, parce que dans le remembrement, il y a deux aspects. Il y a un aspect, évidemment, économique, c'est la modernisation des exploitations agricoles, et nous, en tant qu'autoroutiers, dès qu'on coupe une exploitation agricole, on est obligé de procéder à du remembrement. En général, quand nous, on fait ça, autoroutiers, les départements profitent pour en faire encore plus, à la demande des agriculteurs. Et quand on fait ça, on a calculé, on arrive à plusieurs centaines de kilomètres de haies qui disparaissent. Et donc ça, c'est un phénomène, à mon avis, très important d'aggravation de la disparition des espèces oiseaux. On a eu des rapports suivis avec le ministère de l'Agriculture là-dessus. C'est quand même un vrai et sérieux problème pour le moment, et on ne voit pas le début, sauf par des paroles. Alors, sans ça, en ce moment même, donc, les trames vertes et bleues sont à l'étude. Donc vous savez, on a des noyaux de réserves d'animaux, et on doit les relier par des couloirs. Donc en ce moment, pour les années qui viennent, on va certainement avoir des cartes avec les schémas régionaux de cohérence pour regarder la biodiversité, et on va avoir des lieux de friction ou de heurts entre des corridors animaliers, si je puis dire, et puis les axes d'infrastructure. Donc il se trouve que nous, on avait un peu anticipé cela, et que là, concrètement, on a juste un problème. Donc sur A39, avec le projet de LGV Rhin-Rhône, donc on est en relation avec RFF là-dessus, ils viennent de sortir une carte pour l'aspect environnemental et ils n'ont pas retenu nos propres passages. Donc, tout ça, ils le savent. Donc, il va falloir quand même que sous cette ligne RFF, ils fassent les mêmes passages en accord avec la région et les locaux que nous avons fait. Sinon, c'est 2 mètres d'ouvrage, maintenant on est privatisé, donc on avait fait quand on était public, c'est 2 mètres d'ouvrage public qui ne vont pas respecter des corridors. Bon, j'ai une sensibilité éventuellement écologique, mais je pense que c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que les gens sur le territoire, parce que je commence à les connaître, du Jura, et je suis pas du tout du Jura, eh bien, ils vont se dire, ces deux responsables de grandes infrastructures, ils sont même pas fichus de se mettre d'accord pour les passages de bestioles. Nous, on aime bien nos bestioles et notre terroir. C'est quand même scandaleux. Et donc, je pense, je viens de la science politique, comme c'est déjà des gens qui votent un peu d'extrême droite, ça pourrait faire un petit pataquès additionnel. Je dis ça parce que c'est quand même ça part de rien, mais donc les camions venant des pays d'Europe centrale orientale, c'est vrai que dans le Jura, on vous dit, ah ben c'est des camions, en fait, de gens qui ne sont pas comme nous. Voilà. Donc tout ça est quand même très très lié. Donc beaucoup plus lié que ce qu'on regarde ça de très vite. Un autre point qui nous affecte directement pour c'est l'ensemble des autoroutiers, mais aussi de tous les maîtres d'ouvrage d'infrastructures linéaires, c'est les mesures compensatoires environnementales. Donc ça, c'est un principe qui existe dans la loi de 1976. Et c'est une idée relativement simple, mais qui n'est pas encore tout à fait admise par tout le monde. Quand on a, en gros, quand on va casser ou on va détruire un milieu parce qu'on fait passer une infrastructure, on peut, en compensation, restituer un milieu équivalent. Ayant présenté ça au Conseil général de l'environnement avant qu'il ne soit retenu dans le Conseil général des ponts, j'ai bien vu que la moitié des hauts fonctionnaires, ça essentiellement leur sociologie, contestait cette idée de compensation. Elle a été reprise récemment sous forme monétaire. On essaye de monétariser les services de la nature. On donne une valeur monétaire. C'est un rapport qui a été remis à Fillon récemment. Et l'idée, c'est que peut-être pour les infrastructures à venir, on nous dira, vous détruisez tant d'hectares de forêt, tant d'hectares de milieux humides, tant d'hectares de prairies. Voilà les équivalents monétaires et ça fera tant. Je ne me suis pas opposé, parce que je pense que c'est une ligne rationnelle, mais je pense que nous, dans ce qu'on fait, on fait de l'artisanat et on colle au terrain, et donc ça a aussi un effet pédagogique vis-à-vis des maires et de la population qui jouxte l'infrastructure. Voilà un exemple de bilan des évaluation environnementale des mesures compensatoires qu'on a proposé sur A39, ça c'était relativement unique en France. Donc on a regardé les différents milieux, les surfaces prélevées par l'autoroute et les surfaces dédiées aux compensations. En fait, on a eu un peu de chance, c'est-à-dire qu'en fait on a beaucoup plus restitué en étang et en milieu aquatique que ce qu'on a pris. Et d'un point de vue de la biodiversité, tous les gens qui sont plutôt du côté du Muséum national d'histoire naturelle sont très contents parce que c'est le milieu le plus riche quant à la biodiversité. Là, le bois, l'arbre, on est dans le Jura, donc il y a beaucoup d'arbres, donc on est passé dans les forêts, on en a beaucoup moins restitué, donc, mais les spécialistes nous disent qu'en fait dans les bois, c'est moins riche quant à la biodiversité. Voilà. Enfin, tout ça, ça donne lieu à des sujets fortement polémiques. L'opinion des gens, ça c'était aussi un aspect intéressant, globalement sur A39, donc avec le fuseau que je vous ai décrit, 300 000 personnes concernées, différentes méthodes, on a regardé des articles de presse, on a fait des sondages avec une typologie des riverains, des habitants qui habitaient dans les communes ou les villes desservies. En fait, voilà le résultat, on s'aperçoit que c'est assez intéressant pour le Jura. Alors, c'est un cas particulier là aussi, puisqu'en fait, c'était comme département un premier désenclavement considéré comme moderne. Je suis pas sûr qu'on soit toujours là, mais enfin, c'est comme ça que c'était vécu il y a encore une dizaine d'années. Donc en fait, on avait une très large majorité de sondés qui disaient « A39, c'est une bonne chose ». Et même s'il n'y en avait qu'un tiers qui disait « j'utilise souvent l'autoroute ». Donc ça veut dire que localement, l'image peut être supérieure à uniquement les utilisateurs. Et il y avait quand même 40% qui n'utilisaient jamais l'autoroute. Et dans ces mêmes sondages d'opinion publique, en fait, on s'apercevait à la fin de l'époque qu'on a fait ces travaux, que déjà les gens ont commencé à avoir une peur totale des grands travaux de la LGV. C'est-à-dire que là, c'est un peu des échanges avec des sociologues, c'est un peu un cycle. Quand on annonce un grand ouvrage, d'abord la peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, il peut y avoir des rapports d'acclimatation, de socialisation entre la maîtrise d'ouvrage, la population. Donc, de la publication, d'information, faire attention à tas de choses, les circuits de circulation des camions, remettre de l'eau, pourquoi pas, la poussière des chantiers, voilà, un tas de choses de ce type, ça donne un peu confiance. Quand les travaux sont vraiment là, alors au contraire, le spectaculaire l'emporte et ça devient un lieu de visite. Et on va voir le grand ouvrage. Tout ça, c'est ce que je vous raconte, ça s'est passé sur la fin. Et puis après, ça se banalise, et dans le cas de la 39, finalement, quand on regardait après les chasseurs, les agriculteurs, enfin, finalement, le sentiment, c'est de dire, vous avez respecté ce que vous avez annoncé, donc ça se passe bien. Mais ça, c'est assez intéressant, on va le voir, l'histoire continue. À nouveau, des peurs sur le grand chantier ferroviaire. Bon, je vois que l'heure passe, je vais peut-être passer sur l'1% paysage développement, mais enfin, en clair, c'est quand même 1% des... Donc c'était d'abord une initiative de l'État pour ses réseaux autoroutiers faits par lui. Donc essentiellement sur A75 et A20, qui ensuite a été diffusé pour l'ensemble des grands itinéraires interrégionaux, 1% du coût des travaux doit en fait être réparti sur différents types de projets locaux. Donc dans le cas précis de l'A39, vous avez la procédure, un livre blanc, alors là c'est l'État qui le fait, des chartes d'itinéraires, là c'est l'État qui a aidé à bâtir ces schémas, et ensuite on arrive à des chartes locales et des opérations locales qui sont des requalifications paysagères de routes, c'est-à-dire les anciennes routes, on peut refaire les entrées de villes, les traversées de villages, réhabilitation de bâtis, mairies, lavoirs, églises, voilà. Et pour le tourisme local, ça c'est pas du tout, c'est une grande attente locale, avoir des itinéraires de découverte en liaison avec l'arrivée autoroutière. Bon, là, sur A77, c'est le même processus. Vous avez une idée des sommes. Alors, là, maintenant, d'un point de vue plutôt économique. Sur A77, donc dans la Nièvre, un département pas spécialement développé, plutôt en crise. Alors, la question qu'on avait posée explicitement avec les différents préfets qui se sont succédés, les élus, la Chambre de commerce et d'industrie. La question que j'avais posée, c'est est-ce qu'une autoroute, dans le contexte de la Nièvre, peut freiner une crise? C'est ça l'accord. C'était pas tellement. Bon. La réponse, c'est non, pas vraiment. Sauf quelques points. Alors, on voit le tourisme est toujours la branche économique qui réagit le plus vite à l'arrivée autoroutière. Ça, on l'avait déjà vu sur A71 et sur A77, on le voit aussi. Donc, des nouveaux hôtels, des modernisations de la structure hôtelière, l'arrivée de chaînes. Et ça, ça se fait plutôt sur les villes plutôt moyennes ou les plus grosses. Donc là, une polarisation, mais une modernisation de l'offre hôtelière. Il y a aussi, là, ce n'est pas négligé, une multiplication des gîtes ruraux, des chambres d'hôtes. Dans le cas précis de 77, on a eu une modernisation assez notable des surfaces commerciales. En fait, ça, c'est des hyper qui se sont localisés dans des zones où il n'y avait pas grand-chose avant. Et puis, alors, un cas tout à fait intéressant sur lequel on continue à travailler, c'est Cône-sur-Loire, puisque c'est une petite ville, hein, de l'ordre de 10 000 habitants, et qui a eu le taux de création d'emplois le plus élevé de toute sa région, hein, de la région de Bourgogne, et qui est justement, alors je crois que j'ai mis la carte après, qui est placée, oui ça se voit, vous voyez la ville, donc le tissu gris, plutôt au nord par rapport à l'autoroute en bleu, et qui a su, c'est vrai, une politique de réserve foncière, une transformation en termes de zone d'activité, une promotion d'entreprises, et qui sont venus. Et donc, là, je n'ai pas les derniers chiffres du recensement, mais on pense qu'il y a eu une stabilisation du déclin de la population, et il y a eu quand même une création d'emplois considérable. Et là, on voit en même temps une modification de l'organisation territoriale, ça c'est un phénomène qu'on a vu aussi dans d'autres petites villes, en fonction de la localisation de l'autoroute et surtout des diffuseurs, eh bien, on va modifier éventuellement des axes de développement urbain dans la géographie précédente. Bon, là, on retrouve des ratios propres au secteur autoroutier en tant que tel, mais qui datent un peu. Donc là, vous voyez, on était plutôt de l'ordre de 3 personnes employées par kilomètre. Je vous ai dit que le ratio actuel, c'est plutôt 2 avec le télépéage. Alors, un point important... je me suis fait une religion après ces études, c'est qu'en fait, souvent dans le discours public et notamment porté par les élus, accessibilité, attractivité, c'est mêlé. Là maintenant, d'un point de vue plus clair, plus rationnel, les autoroutes, ça apporte de l'accessibilité, ça oui, mais pas de l'attractivité. L'attractivité, ça dépend vraiment du tissu économique, social, culturel, local. Et dans les facteurs de développement, eh bien, tous les facteurs, accès au crédit, accès au capital risque, etc., ça c'est pas l'autoroute qui l'apporte, il faut que ça soit là localement. Mais effectivement, ce qui réagit là aussi assez bien par rapport au tourisme que j'ai évoqué, alors les plateformes logistiques. Les plateformes logistiques, il faut quand même, j'ai cité l'exemple de Montmarault, parce que ça existait à un moment donné de la structuration du réseau. Quand la 71 se fait, Montmarault apparaît comme une bonne localisation, mais quand ensuite à 89 va venir se faire, eh bien, les gens qui se sont localisés à des fins logistiques à Montmarault, ils vont aller plus bas vers Clermont pour bénéficier vraiment d'un croisement. Donc la logistique, c'est quand ça se localise sur un barreau autoroutier, il faut voir que, maintenant, Michel l'a dit, le système autoroutier ou le réseau autoroutier est un peu prémature, donc on peut y voir un peu plus clair, mais ça peut encore se... Quand on regarde finement les choses, les zones logistiques peuvent quand même vraiment bouger facilement sur les barreaux. Quelque chose de très important, c'est création de zones d'activité. Alors, là, souvent, on a des critiques écologistes ou environnementalistes en disant, oui, vous incitez les élus à mettre en œuvre des politiques de réserve foncière, à faire des zones d'activité, et après, ça reste vite. Oui, il y en a. Je peux en citer. Mais il y en a aussi qui se remplissent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus jeter tout. Et en général, ce qu'on retire de nos expériences, c'est que les zones d'activité, en réalité, c'est une modernisation du tissu économique des villes des services. C'est-à-dire qu'il faut bien voir, c'est pas du tout de l'exogène, c'est de l'endogène. Et ça, bon, je ne savais pas, et personne ne savait avant qu'on ait travaillé avec Giraffe, mais moderniser l'appareil productif d'une ville, eh bien, l'autoroute le permet. Et donc, c'est en fait du desserrement d'activité, c'est un phénomène géographique bien connu. Et les activités exogènes, ça dépend des efforts de promotion nationale ou internationale que font les agences de développement ou les agences qui travaillent là-dessus. Et on peut avoir, donc, pas des ratios, 20% d'emploi résultat de déplacement. Quelque chose aussi que je dois dire, c'est que la localisation de ces zones d'activité par rapport aux diffuseurs, ça a l'air de rien, mais chaque kilomètre compte, et en fait, c'est la distance-temps. Une zone d'activité à 2 minutes d'un diffuseur va se remplir beaucoup plus vite qu'à 10 minutes. Ça, on a eu une thèse là-dessus à Besançon, et c'est quand même assez... distance-temps est très très sélective. Dernier point quand même, parce que là je ne l'ai pas mis comme ça, il y a aussi une idée commune en disant les autoroutes ça draine, ça polarise le territoire. Dans ce qu'on a regardé, c'est quand même relativement exceptionnel qu'on ait des entreprises qui soient qui étaient localisées, mettons, à une centaine de kilomètres du barreau, qui viennent se localiser près du barreau. Ça, c'est des cas quand même qu'on compte sur les doigts d'une main. Avec les trois observatoires, je dis encore, c'est. En tant que dire, ce phénomène-là, on ne l'a pas vu souvent. Et souvent, quand on fait des monographies d'entreprises, on pouvait faire le pari que des entreprises qui seraient restées là où elles étaient auraient dépéri. Donc, je veux dire, ça, moi, je viens de la tare. En général, une entreprise qui se déplace dans l'espace, c'est une entreprise qui va vivre, qui aspire à vivre. Celle qui ne bouge pas, elle peut aussi trépasser. Enfin, à chaque fois, je vous racontais des missions que j'avais faites en son temps pour la tare, une entreprise qui ne voulait pas se déplacer. Le tourisme, je l'ai dit. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, ça, c'est beaucoup plus... on n'a jamais pu vraiment bien travailler à un niveau micro là-dessus. C'est-à-dire, en fait, transformer en gain de productivité, ou donc en ressources de revenus additionnels, ou valeur ajoutée additionnelle, le fait qu'il y ait du remembrement. Là, on était à une échelle trop fine, et on ne pouvait pas se satisfaire des déclarations des chefs d'exploitation agricole. Enfin, on a quand même fait une thèse avec quelqu'un, universitaire, après qu'il y ait eu le remembrement, la valeur des terres agricoles se négocie avec un petit chouïa en plus, par rapport au marché des terres agricoles précédentes. Donc, je veux dire, voilà, ça on l'avait fait sur 71, ça prouve quand même que, alors évidemment, il faut le comparer à l'évolution du prix national ou régional, bon, on l'avait fait ça, vous voyez, un petit chouïa en plus. La fiscalité locale, alors, pendant la construction, on verse une taxe professionnelle, mais qui dépend, en fait, bon là vous avez les chiffres macro, c'est pas négligeable, mais qui va dépendre évidemment des bases vies. Et donc c'est pour ça que pendant le chantier, nous on voit les communes se mobilisent et parfois rivalisent entre elles pour avoir une base vie d'entreprise qui dure plus de 3 mois sur un seul lieu pour avoir la taxe professionnelle. Maintenant c'est peut-être un sujet obsolète, mais enfin, alors pendant l'exploitation, enfin pour le moment on paye encore, là aussi c'est pas négligeable ce qu'on apporte, mais avec des disparités très fortes, puisque là, en fait, pour la taxe professionnelle pendant l'exploitation, ça va dépendre des lieux d'exploitation qui sont les nôtres, là où on a les ouvriers d'entretien, etc. Donc, en fait, c'est de la distribution, mais pas spécialement égalitaire selon le linéaire. Les aires de service, ça, c'est un point important, et je pense que ça peut devenir de plus en plus important, sur A71, mais aussi ailleurs. Donc, on voit des départements, des régions qui, en fait, investissent avec nous pour, en fait, marquer leur territoire. Une aire de service, c'est une façon d'affirmer leur existence. Donc là, vous avez des chiffres passés sur A71. Vous avez mis... bon, alors, ça viendra peut-être après, parce que sur A39, on a la même chose. Alors, on a regardé, en clair, sur la RN 83... À l'occasion de l'arrivée autoroutière de la 39, effectivement, il y a eu des fermetures de stations de service, des pétroliers, des indépendants, les garages, les restaurants, les hôtels. Donc il y a des perdants. Ça, c'est un peu ce que disait Michel. Oui, sur les routes nationales délestées ou délaissées en partie, il y a des perdants, ça, on les a identifiés. Et sur A39, eh bien, quand on fait la somme des chiffres d'affaires faits par les nouveaux arrivants qui rendent des services de garage, de desserte, de restauration, d'hôtellerie, eh bien, en fait, on a une somme additionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de chiffres d'affaires qui sont faits d'une manière polarisée, concentrée sur les aires de service, que la somme des petits chiffres d'affaires faits sur la route nationale précédente. Ce n'est pas les mêmes acteurs. Nous, on avait essayé à un moment donné, ça c'était dans l'Allier, de faire en sorte que des indépendants petits s'associent à des chénistes sur les aires pour de la restauration. C'est quand même, ça prend beaucoup de temps, c'est très compliqué, les problèmes de normes, enfin bon, ça pose beaucoup de problèmes. En termes aussi de succès commercial, l'aire du Jura, l'aire du Poulet de Bresse, en fait, ça marche très très fort avec deux modèles. D'abord, c'est deux aires qui sont à peu près à 40 km l'une de l'autre, donc déjà ça c'est surprenant parce qu'on peut dire qu'ils se font concurrence et qu'il n'y a pas la place pour deux. En réalité, c'est tout à fait différent. Le Jura, c'est le Conseil Général, présente tous ses produits de bois, de lunettes sur l'air et puis vend des produits. En ce moment même, il était la semaine dernière. Il y a une exposition sur des casse-têtes en bois. Il paraît que les gens, il faut leur dire, on ferme, parce que sans ça, ils sont là à essayer de mettre les différentes bois. Et la personne, parce que c'est en face, c'est un monsieur, dont j'ai oublié le nom, qui les produit. Et on nous a dit, heureusement qu'il y a Internet, et en ce moment, il croule de commandes. Bon, donc, on peut dire, c'est petit, c'est artisanal, mais ça marche. Le poulet de bois, c'est tout à fait différent. C'est un poulet de luxe, si je puis dire. Et donc là, on a fait des études. En fait, par le poulet, on fidélise des gens. C'est-à-dire qu'il y a des Allemands, par exemple, qui descendent quand ils vont en vacances, ils prennent la Conte Neuf, ils s'arrêtent pour manger un poulet sur l'air, en emporter un, et puis la même chose pour le rapporter en Allemagne. Donc, il y a des choses, et c'est devenu un des premiers lieux de vente de poulet breton, mais c'est des choses, on ne le savait pas, mais bon, on le constate. Voilà, alors là aussi, ça c'est du marquage, ça c'est plutôt de l'ordre du symbolique. Le Jura aimait beaucoup son autoroute. Ils ont repris des plans de Claude-Nicolas Ledoux, l'architecte de la Révolution française, et des réalisations ont été faites, contemporaines, mais sur des plans anciens, qui n'avaient, donc ce bâtiment n'avait jamais existé. Et c'est là, dans ce bâtiment-là, qu'il y a un auditorium. Modestement, j'avais fait en sorte que la société des géographes en économie de transport, on a tenu colloque là, mais sans ça, le conseil général, dans un auditorium, continuait à se réunir régulièrement. Et on m'a dit encore que sur la page d'accueil de l'UNET du département du Jura, là, on voit l'air du Jura, donc c'est un signe d'identification très fort. Voilà la boutique du Jura, le poulet de Bresse, c'est une autre façon de se faire. Et puis là, quand même, on a modifié, alors ça c'était à nos frais, on a transporté une vieille ferme bressane sur l'air. Donc ça aussi, c'est. Donc tout ça, c'est... Enfin, derrière ces anecdotes, et avant d'arriver à ce dernier point, je pense quand même qu'il y a une territorialisation du vécu de l'autoroute. C'est-à-dire que par rapport à ce que disait Michel, évidemment, il y a une question macro. Ça, c'est toujours ça le plus important. Et il faut quand même aussi que ça soit approprié. Et dans le Jura, en ce moment, par exemple, il y aurait peu de gens qui vous diraient oui, l'autoroute à 39, c'est, excusez-moi, dégueulasse, ou ça pollue, ou c'est. Voilà, il y a une sensibilité du territoire, du terroir, et on s'y est facilement adapté. C'est un peu ma philosophie profonde. Vis-à-vis de la biodiversité, si on le veut, ça ne coûte pas très cher et on pourra faire beaucoup de choses. Je dis bien, si on le veut, et ça ne coûte pas très cher. Si on a des actionnaires, c'est un autre sujet, qui ne veulent strictement rien dépenser et qui se comportent comme des rentiers, c'est autre chose. Mais ça, c'est quand même très, très faisable. Au regard du CO2, bon, je pourrais vous dire un certain nombre de choses, c'est beaucoup plus difficile pour les autoroutiers d'agir. Enfin, nous, par exemple, on offre un tarif pour des flottes de camions qui sont aux normes Euro 4 ou 5 moins cher que les flottes anciennes. Mais on n'en fait pas une grande publicité parce que d'autres autoroutiers ne le souhaitent pas. Il faut dire les choses. Enfin, nous, on le fait. Sans ça, là, en ce moment, moi, je suis en ce moment en train de travailler sur ce dossier-là. Le gouvernement a lancé donc, un appel d'offres de DSP, délégation de service public, pour le service d'autoroute ferroviaire, donc entre Eton et Bassano, qui va être étendu dans l'est lyonnais. Donc, c'est ce que vous disait Michel, c'est des camions, des remorques qu'on peut mettre sur des wagons. Donc, là, en même temps, il y a une expérimentation technologique avec Modalor, je ne sais pas. Pour ce type de wagon, que la SNCF trouve trop cher, mais enfin bref, pour le moment il y a celui-là, enfin bref. Et là en ce moment, c'est de trouver un nouvel opérateur pour assumer donc ce service ferroviaire qui irait jusqu'à Grenay, enfin, une plateforme dans l'est lyonnais, pour conduire le tout à Orbassano et puis plus loin, Turin, et même encore plus loin, des opérateurs nous parlent de camions qu'on pourrait aller chercher à Trieste, dans les camions turcs ou autres. Enfin, voilà, donc ça c'est des maillons, mais de réseaux beaucoup plus larges. Et on est aussi donc, dans cette logique logistique et multimodale. Conclusion générale, donc pas d'effet mécanique automatique, mais quand même on a vu quelques effets de développement localisé. Les potentiels socio-économiques, et la vitalité des acteurs, c'est ça qui est intéressant. Pour reprendre peut-être une question qui était dans l'exposé précédent et qui était... adressé à Michel, à sa vie. Je pense qu'en effet, les problèmes, moi je mets gouvernance entre guillemets, parce que je vous dis franchement, moi j'aime pas le mot de gouvernance. Parce que maintenant c'est un mot passe-partout, on est à toutes les sauces. On en a fait des critiques pour le ministère des Affaires étrangères, parce qu'on est en démocratie, donc soit il y a des gouvernements, soit il y a des systèmes de préparation de la décision, et puis il y a des responsables, et puis des avis ou des conseillers. Enfin, la gouvernance, moi j'aime pas ça, parce que bon, ça peu importe. Enfin, je l'ai mis quand même en conclusion, parce que ça veut bien dire aussi que la coordination d'acteurs, ça c'est quelque chose de très important. Et pour le moment, moi j'estime que tout ce qu'on a vu, la coordination pour créer des zones d'activité sur un itinéraire, c'est zéro. Je pense qu'on aurait très bien pu, en France, avoir une idée de dire, dans le fond, sur un itinéraire donné, sur des pays qui sont à peu près dans la même, même stade de développement, on pourrait très bien avoir des polarisations. D'autant plus que la taxe aussi avait été un peu analysée. Enfin, bon, à la limite, c'est toujours une question de la qualité. Et là aussi, gouvernance par rapport... aux différents modes de transport. Moi, je pense qu'on est au degré quasiment zéro. Je dramatise un petit peu. Parce que quand on regarde les compétences entre les régions, les départements, les communes et nous, on n'a aucune raison de se voir. Alors, moi, je veux dire, en ce moment, on se voit, mais pour aller voir, par exemple, les élus, je prendre des choses concrètes, de Dijon ou de Lyon, en disant comment est-ce qu'on peut imaginer que des gens qui arrivent sur autoroute à la, tous les jours, des 9 heures, à leur volant de voiture, et qu'ils les laissent quelque part, et le quelque part, c'est plus qu'un parc-relais, que ce soit un parc-relais plus un service. Parce que si c'est des parc-relais, on en a déjà fait, c'est des lieux de vandalisme, et donc, au contraire, on a des lieux répulsifs. Moi je le dis, ce n'est pas les autoroutiers qui vont voir la science de cet équipement nouveau à faire en périurbanisation de l'aire urbaine, au sens de l'INSEE, pour ensuite les rabattre sur des réseaux collectifs. Et pour moi, les réseaux collectifs, ça peut être aussi du taxi. Hein, c'est pas nécessairement un métro, un bus lourd, un bus léger. Pour faire tout ça, en ce moment, il n'y a aucun cadre légal. On peut le faire par activisme, ou pour se faire bien voir,